festive. Voyage dans la culture pastorale des Alpes. Une émission proposée par la Maison du Berger et la Fédération des Alpages de l'Isère. Hasard du calendrier ou préméditation, la maison du berger de Champoléon dans la haute vallée du Champsaur fut en ce printemps radieux le lieu d'une étonnante et ingénieuse rencontre entre anciens et nouveaux acteurs du pastoralisme. Un trait d'union entre générations dans l'esprit de ce qu'avait souhaité le fondateur de ce haut lieu du pastoralisme dans les Alpes, Pierre Mélé, un technicien formé à l'école de la bergerie nationale de Rambouillet qui fut berger, assistant berger, mais aussi militant anarchiste, poète et écrivain. Ainsi, le 11 juin 2011, la Maison du Berger fut le théâtre de cette rencontre improbable entre le petit groupe des anciens, les compagnons de la bergerie nationale de Rambouillet et les jeunes stagiaires bergers transhumants de l'école du Merle de Salon de Provence. Ils faisaient leurs premiers pas dans le métier en participant pendant une douzaine de jours à un stage d'initiation à l'alpage. Tissant des liens entre un passé glorieux et une réalité toujours bien vivante, la Maison du Berger joue pleinement son rôle de reconnaissance et de défense de cette activité en perpétuelle adaptation. Cet outil de développement qui grandit et nourrit son territoire grâce à son rayonnement économique et touristique montre toute son envergure. Appelée à s'ouvrir encore, l'institution est en passe de dépasser les frontières des Hautes-Alpes pour devenir une référence nationale, portant haut et fort le message d'humanité, de paix et d'espoir de la civilisation pastorale. Alors pour commencer cette émission sur les cultures pastorales des Alpes, honneur aux anciens venus respirer le temps de quelques jours l'air de cette vallée de Champoléon et rendre un hommage fraternel à la mémoire de leur compagnon Pierre Mélé.
Cette année, le voyage, on avait décidé de le faire dans les Hautes-Alpes. Et donc, comme on avait quelques anciens, mais ils étaient très occupés parce qu'ils montaient les animaux en alpage, ci ou là. Et donc, on a demandé à quelqu'un qui est encore en activité, mais qui est un éleveur, qui a des responsabilités d'ailleurs au niveau régional, qui s'appelle Franck Dieny, de nous organiser ça sur place.
Alors, Franck Dieny, moi je suis éleveur donc à Ventavon, dans le sud des Hautes-Alpes, entre Gap et Sisteron. Je dois pas mal de choses à Rambouillet, puisque c'est ce qui a permis que je sois éleveur aujourd'hui, hein, même si j'ai commencé par être berger et faire les expériences chez les autres. J'ai même rencontré mon épouse à Rambouillet, donc vous comprenez pourquoi je dis que je dois beaucoup. Donc j'étais un peu redevable, et puis c'est vrai que quelque part on a pris le virus du mérinos à Rambouillet et qu'on retrouve dans nos régions le mérinos. Donc on essaye aussi d'adapter ça à la région.
Sur le sommet du plateau Saint-Mens, enveloppé dans un manteau brun, un paste garde un troupeau de moutons. Il me regarde passer, me salue d'un signe de tête et me suit de l'œil pendant que je m'éloigne. Ce solitaire m'intéresse. Je me détourne plusieurs fois. Il est toujours là, à la même place, avec ses bottes de feutre et son manteau que le vent secoue. Il dormira là cette nuit, parmi dans quelque affractuosité du rocher.
Chat petit, le froid est venu. Toujours.
Hier matin, au petit train-train du train, on le sentait piquer, le gros malin. J'ai pris la route, tout gaillard quand même. Le brouillard était épais et glacial. C'est tout juste si j'apercevais les villages.
Surtout avec ce qu'on a fait cette année avec le voyage et la rencontre avec les éleveurs, les bergers du Merle qui étaient en stage à ce moment-là. Avec Pierre Mélé, il y a une sorte de trait d'union qui se crée entre les anciens et les nouveaux pour qu'en effet ce métier soit dans la modernité, parce que c'est quand même quelque chose qui vit, hein, le pastoralisme, les bergers, on en a besoin, nous éleveurs, hein, et qu'il faut en effet que ça traverse les générations pour que ce soit adapté à notre civilisation et que quelque part on n'ait pas des capannes comme au Moyen-Âge et que les bergers puissent vivre une vie normale dans une société qu'ils ont droit comme tout le monde.
Pierre Mélé a eu l'intelligence de ne pas faire un carré trop restrictif. À mon avis, il a dessiné quelque chose, mais sans faire de bordure. Je pense que les gens ont bien saisi le message ceux qui y ont pensé, ceux qui la font vivre aujourd'hui, et certainement ceux qui l'ont fait vivre demain, puisque ce n'est pas orienté sur le passé, pour le passé, pour ruminer. Même si les ovins ruminent, il n'y a pas de raison que les bergers ruminent tout le temps. Ils n'ont pas plusieurs estomacs, ils n'en ont qu'un. Donc apparemment, c'est parti dans un sens où on conjugue allègrement et même très bien un peu de passé, parce que c'est une ressource, ça permet d'aller rechercher ce qu'on a oublié ou ce qu'on a perdu. Hein, mais beaucoup de on pense à demain, on utilise les techniques d'aujourd'hui, etc. Et ça, c'est l'idéal. Hein, marié hier, demain et avec aujourd'hui, c'est parfait.
Il y a des belles photos, il y a des belles images, il y a des jolis textes, il y a des objets qui sont pas forcément, que les gens ne connaissent pas forcément. Il y a des jolis diaporamas et ça permet pour beaucoup de gens qui ignorent ce que c'est que le monde pastoral de découvrir au moins une première facette, par exemple avant ou après avoir fait une randonnée. Donc ça c'est important. Ce qui est intéressant aussi donc là, pour le monde de l'élevage, c'est qu'on a enfin un lieu qui reconnaît aussi ce que nous sommes et sans doute une défense de notre métier. Et c'est intéressant aussi.
Ah, vous avez un berger qui fait 40 ou 50 livres.
Il y a un beau métier.
Un berger. Oh, ça bouge. Dur.
Ah, oui. Dur, oui, mais bon, mal c'est un beau métier quand même.
Enfin, après, ça s'est arrangé.
Il faut faire connaître.
Oui, mais c'est un beau métier. Ouais, voilà.
Alors, je vous invite à venir nous suivre.
Ah ben voilà.
Pour aller
donc,
jusqu'à la maison du berger, faites une pause avec nous juste avant.
Une petite pause.
Il y aura de la musique.
Une petite pause.
Redescendant ou redescendant.
Vous redescendrez, ça sera sûrement terminé. Hein. C'est parti, nous sommes partis ce matin pour des balades comptées. Et un ambiance. Tant qu'il y aura des bergers.
Allez,
le monde n'aura pas encore basculé.
Ça, c'est une bonne chose parce que c'est quand même c'est un réveil de la mémoire. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que l'on perd des repères. On s'en rend compte. Les enfants ne savent plus ce que c'est qu'un mouton, les enfants. Donc on monte des fermes télélogiques de plus en plus. Et cette maison du berger avec le merle qui est raccroché dessus, la transhumance, c'est une très bonne chose.
La personnalité de Pierre Mélé plane encore au-dessus de la maison du berger comme s'il avait laissé une empreinte aussi vivante qu'invisible dans ce lieu devenu hautement symbolique. Ancien instituteur, Pierre Mélé intégra l'école de Rambouillet et commença à exercer son métier de berger dans l'Eure. Nommé assistant berger, il fut affecté en 1944 dans les Hautes-Alpes à la direction des services agricoles. Cet humaniste têtu, original, sincère et passionné qui a écrit plus d'une quinzaine de livres a aussi fondé la Frérie des bergers alpins en 1957. Amis fidèles et compagnons des bergers et des éleveurs, il organisa de nombreuses rencontres dans les alpages ou autour d'une table, en Isère, dans la Drôme, en Provence ou dans les Hautes-Alpes. En 1985, il crée l'association des Amis de la Maison du Berger de Champollion pour la sauvegarde du patrimoine pastoral de la vallée. Et quelques années plus tard, un legs de sa part permet à la mairie de Champollion d'acheter une ferme qui deviendra en 2007 la maison du berger.
Personnellement, je ne l'ai pas connu. Après, moi, je le connais un petit peu par ses livres ou des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est important pour nous que quelque part la transmission de ce genre de personnage se fasse. Et c'est tout l'intérêt de maisons comme la maison du berger de Champollion.
J'ai mis longtemps à trouver la première ferme, tournant tout autour sans jamais la voir. Le café chaud servi a été le bienvenu. J'ai parlé, j'ai écouté, j'ai pris des notes et donné quelques indications. Puis nous sommes propagés parmi les brebis, regardant ci, regardant là, palpant par-ci, palpant par-là, et des crottes dans mes tubes, les emmagasinant.
À la fin de sa vie, il a acheté un appartement à Gap, et il a tout légué sans en viager à la commune Champollion, parce qu'il connaissait des bergers ici qui ont été plus gentils que les gens du bas. Du département. Alors, il a passé l'accord avec l'ancien maire, M. Pascal Roland, parce qu'il connaissait des bergers, justement, d'ici, de la région de Champollion, de Papic, à côté, beaucoup de gens d'ici, parce qu'il connaissait un peu toutes les montagnes du coin. Et ici, particulièrement, parce qu'il faisait beaucoup de réunions avec des promenades en montagne. Donc, il est apprécié sur ce plan-là.
Elle chante une vieille romance. rentre tes blancs moutons. Allons sous ma chaumière, bergère, vite, allons. J'entends sur le feuillage l'ombre qui tombe à grand bruit. Voici venir l'orage, voici venir l'Isler qui lui. Papa da 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 pa pa da pa. Papa da pira da 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 pa da 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 da. Papa da pa da pa. Courons, courons, bergère. Vois-tu briller là-bas le toit de ma chaumière? Il nous abritera. Voici notre cabane, la porte va s'ouvrir. Ma mère et ma sœur Anne viendront nous accueillir. Bonsoir, bonsoir, ma mère, ma sœur Anne, bonsoir. J'emmène ma bergère près de vous pour ce soir. Qu'on mène dans l'étable ses brebis, ses agneaux. Et mettons sur la table étage et fruits nouveaux. On soupe, on rit, on chante, l'orage s'est calmé. Une amitié touchante unit nos cœurs charmés. Bientôt la bergerette, là c'est fermant les yeux, s'endort dans ma chambrette et fait un rêve heureux. C'est la version moderne. Rock'n'roll. Bonne nuit. Bonne nuit, bergère, rentre vite dans tes draps. Prends bien tes somnifères et mets ton pyjama. J'imaginerai tes rêves jusqu'au lever du jour. Bonne nuit, bergère. Je t'aimerai toujours.
Bravo, bravo.
C'était version Nino Ferrer.
Parce que ça, c'est un métier, il faut... Il faut pratiquement y être né dedans. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas nés qui ont fait, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas fait. Parce que le métier de berger, surtout pour les moutons, c'est une passion. Et les brebis, il faut les regarder. Et un bon berger, il n'a pas besoin de numéro ni de fiche. Il connaît toutes ses brebis. Moi, je peux vous dire, je les connaissais bien. Mais j'avais un ami qui est mort maintenant parce que bon, il a eu un accident. Il était un peu plus âgé que moi, mais pas beaucoup. Il avait 2000 brebis. Il était arrivé à avoir 2000 brebis. Mais s'il en manquait une, il s'en apercevait. Ouais. Et ça, quand vous le dites, on vous dit c'est pas possible. Eh bien, lui, c'était possible. D'abord, parmi ses collègues, tous disaient lui, c'est le plus fort. Enfin, c'était un berger celui-là, un vrai de vrai. Et bon, il a commencé à 10 ans. Hein. Sa première montagne, il l'a faite à 12 ans. Et après, chaque année, il a continué. Mais bon, c'était un dur, hein, un solide, hein, parce que les heures, les journées de marche qu'il a fait lui, ça ferait plusieurs fois le tour du monde. Hein. Incroyable, incroyable.
C'est qui?
Monsieur Sik Jean, il s'appelait. Né à Entrevaux. Et décédé à Saorge, dans les Alpes-Maritimes.
Et il avait quelle montagne?
Il était à la montagne de Saorge. À la montagne, ça s'appelait Broum, Pampiasque. Et le plus haut sommet, on l'appelait la cime du diable.
Dans la vallée des merveilles.
voilà. Lui, il était du côté levant de la vallée des merveilles. Elle se trouvait derrière sa montagne.
Eh bien, je suis un fils d'agriculteur. Je suis le 9e de 11 enfants. Et après, j'ai fait mon service militaire en Algérie. Et après, j'ai été berger jusqu'en 1994. Et c'est dans les montagnes du Kéra que j'ai fait ma profession de berger. Et c'est je partais de chez moi à pied avec le troupeau. Il fallait une journée, deux jours et deux nuits pour aller jusqu'à dans le Grand Kéra. Je suis toujours été dans des mauvaises cabanes, mal logé. L'eau, des fois, il fallait faire un kilomètre pour aller la chercher, pour se ravitailler. Les provisions, c'était la même chose. Des fois, j'arrivais au village, l'épicier était parti. Alors, je restais une semaine sans provision.
Et vous mangez quoi alors?
Eh bien, des fois je mangeais rien qu'un sucre, par repas.
Donc vous n'avez jamais eu de formation de berger, vous?
Non, non. Eh bien, c'est-à-dire que j'avais fait déjà un peu à la ferme. Et après, on m'a envoyé à la montagne. Et c'est là que j'ai fait la profession de berger. Et j'ai gardé à 2000 jusqu'à 3000 moutons. Ah ben oui, on avait un groupement pastoral. Ça a permis de faire toutes les cabanes, d'être mieux logé, et les points d'eau aussi.
Alors, vous ne voulez pas nous raconter l'anecdote, la façon dont vous avez rencontré votre épouse?
Aussi.
C'est une histoire de berger?
Et à peu près, oui. Quand je me suis remonté au troupeau, j'ai trouvé une dame sur un rocher, au milieu de mon troupeau. Et c'est là qu'elle est venue, je suis été vers elle, et puis c'est de là qu'on est partis ensemble.
Je me permets d'ajouter quelque chose. Moi, je suis allée à Moline en Queyras parce que je faisais des camps avec des jeunes. Oula. J'étais jeune, j'avais 20 ans. Et je suis retournée sur ce lieu 15 ans après. Et c'est là que j'ai voulu retourner sur les sommets que j'avais parcourus à 20 ans, dont le sommet du Grand Queyras, et je ne me rappelais plus du chemin. Donc, ce berger connaissait le chemin, mais je ne savais pas qui il était. Donc, quand il m'a vu sur le rocher, il est venu vers moi, et je lui ai demandé où était le chemin. Donc, deux jours après cette première rencontre, je suis passée à 3 heures du matin devant la cabane du berger pour monter au Grand Queyras, et ses chiens ont aboyé. Et ce monsieur est sorti voir ce qu'il se passait, parce qu'il pensait que peut-être il y avait des chiens errants qui attaquaient son troupeau. Ce monsieur est sorti et a dit « Ah non, 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 madame, je ne vous laisse pas monter là-haut toute seule. » Et il m'a accompagnée au sommet du Grand Queyras. Et c'est comme ça que notre histoire s'est liée. Voilà.
Vous êtes un berger galant, alors?
Presque.
Voilà.
D'accord.
Voilà notre histoire et nous sommes...
Et voilà, aujourd'hui on est là.
Alors ça c'est une chanson qui nous emmène très très loin, à Trinidad. Ouais. C'est loin de Champollion. Les Borels. If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme, guarantee you one real good fine time. Drinking rum and coca. Cola, go down Punkumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Oh, beat it, man, beat it. Since the Yankee come to Trinidad, they got the young girls all going mad. Young girls say they treat him nice, make Trinidad like paradise. Drinking rum and Coca-Cola, go down Punkumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. It's a fact, man. it's a fact. From Chickachickery to Mona's Isle, native girls all dance and smile, help soldiers celebrate his leave, make every day like New Year's Eve, drinking rum and Coca-Cola. Go down Pornkumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. You vex me. In old Trinidad, I also fear the situation is mighty queer, like the Yankee girl, the native swoon, when she hear the bingo croon, drinking rum and Coca-Cola. Go down Punkumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Out on Manzanella Beach, G.I. Romans with native peach, all night long make tropic love, next day sit in hot sun and cool love, drinking rum and Coca-Cola. Go down Punkumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar.
Alors moi je suis à l'autodidacte pur et dur, parce que je suis parisien. J'ai découvert l'élevage en 57. Et par l'intermédiaire de la présidente de la Fédération départementale ovine des Ardennes, il m'a pris à l'époque, alors je ne connaissais rien dans le mouton, pour devenir technicien. J'étais bien encadré par les compagnons de la bergerie nationale qui m'ont aidé. Alors là, je discutais hier avec les gens du Merle. C'est vrai qu'il y a une nouvelle ouverture qui se fait et on ne peut être que satisfait de cette ouverture. Où effectivement, on va donner le sens du jardinage, le sens de la responsabilité, mais aussi des choses qui vont être techniques. Aujourd'hui, il y a des stages pour aller en alpage. C'est important. On ne peut pas mettre n'importe qui en alpage. Ce qu'on peut reprocher à certains, à ce qu'ils se disent bergers, c'est que c'est du folklore. Ils se figurent qu'ils vont aller garder les moutons pendant 15 jours, les alpilles en éventail. Ce n'est pas ça. Ce n'est surtout pas ça. C'est une contrainte énorme. Et les bergers qui sont en alpage, en déficit, ils vont passer trois mois durs. Les conditions sont améliorées. On a amélioré les cabanes. Il y a des hélicoptères qui amène sur place, etc. On a des 4x4. Mais ça reste un métier dur. Il peut y avoir un coup de chien, un coup de loup, un orage, etc. Donc là, ils font des sessions, effectivement, de transhumance, d'alpage, pour former ces jeunes. Et ça, c'est très bien. Je crois qu'effectivement, c'est l'avantage de ça, de cette prise de conscience qu'a eu le maire, de façon à former des bergers de transhumance. Et ça, c'est une bonne chose.
Aujourd'hui, on est à Champoléon pour leur permettre de se préparer à la vie à l'estive. Gestion des troupeaux, gestion des alpages et gestion de leur vie personnelle et professionnelle dans le cadre de l'alpage.
Geneviève Andréis, formatrice à l'école du Merle de Salon de Provence.
En sachant que ça fait 10 ans aujourd'hui qu'on fait cette formation ici à Champoléon et que l'intérêt pour eux, c'est de découvrir d'abord de nombreux alpages avec des contraintes différentes les uns des autres. Et puis également de se mettre un petit peu en jambe, parce que mine de rien, quand on débute, avoir à la fois la forme physique et l'attention intellectuelle et psychologique nécessaire au troupeau, c'est pas facile. Et c'est vrai que cette formation là qui leur permet de déjà se apprendre à lire un paysage, apprendre à lire un comportement possible du troupeau sur un alpage selon ses contraintes, vont leur permettre d'être déjà un peu plus aguerris, enfin moins inquiet peut-être par rapport à la découverte de cette facette du métier. Et puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement, comme ils font quand même pas mal de marches, ça nous a été souligné par les éleveurs qui les accueillent en débutant, ils n'ont pas besoin de faire l'effort physique de se mettre en jambe, parce que c'est vrai que ça, c'est un des soucis pour les bergers quand ils arrivent de la plaine. Donc ça, disons que ça les aide un petit peu aussi à commencer leur première estive pour la plupart d'entre eux.
On est venu comme ça.
Michel Jallet, responsable de formation à l'école du Merle.
Vers la vallée de Champollion, parce qu'il y avait déjà le projet à partir de 2000 voilà, parce que ça fait 10 ans. Ce projet donc de maison de berger, ce qui nous a attirés dans la vallée de Champollion.
L'intérêt de la vallée ici, c'est qu'il y a suffisamment de différences selon les types d'alpage pour qu'ils soient quand même assez prêts à pouvoir découvrir différents modes de garde dans ces alpages différents, sachant que bah, évidemment il y a la première année, mais il y aura les années suivantes. Et comme ils ne restent pas forcément toujours sur les mêmes alpages, ils vont être peut-être amenés à rencontrer des alpages très différents les uns des autres. Et c'est vrai que chaque fois, c'est une redécouverte d'un milieu. Donc c'est important pour eux d'avoir déjà eu une première initiation à ce que pourrait être un alpage.
Au début, les cours se faisaient là, dans le gîte. Puis quand la maison du berger donc, a été construite, tout naturellement, donc, ce partenariat nous a proposé de faire cours donc, dans leurs locaux. Donc la formation a été délocalisée pour tout ce qui est partie théorique donc, sur la maison du berger. Et voilà, donc ça perdure depuis 10 ans, et je pense qu'on a trouvé la bonne formule et que les enquêtes de satisfaction montrent que aussi bien les stagiaires que les éleveurs qui les ont en stage après sont satisfaits de cette formule. Voilà.
Alors cette année en plus c'est un peu particulier parce que vous vous trouvez là en même temps que les anciens oui. Assistants bergers de Rambouillet. Alors vous pensez que ça va être fructueux comme rencontre entre les anciens et les nouveaux ?
Oui, c'est toujours bien d'échanger sur, ben, sur l'évolution du métier, surtout, hein, donc ce qu'ils ont connu eux, ce que la formation leur a apporté, comment ils en ont fait leur métier. Et puis, nos jeunes, là, qui ne sont pas forcément issus du milieu agricole et qui voilà, trouvent en leurs aînés un terrain d'échange sur une passion commune.
Alors, je m'appelle Jade, je viens du Haut-Var, de Riance, un gros village. J'ai 23 ans, j'ai fait quelques études à Marseille et ensuite j'ai arrêté pour faire ce métier-là parce que ça faisait quelque temps que je mettais le pied dedans. C'est un des métiers qui reste un métier passion, tout ce qui est travail avec le vivant. Donc, après, une fois qu'on a mis le nez dedans, on tombe vite amoureux de ce qui est en face de nous, donc la brebis. Et puis ça correspond à une production alimentaire, à un métier essentiel, quelque chose d'essentiel qui permet de valoriser toutes les ressources qui sont autour de nous sans être obligé de faire des grandes cultures, etc. Ça reste un des métiers qui peut attirer les jeunes parce qu'il y a du physique, il y a tout le temps de la découverte. C'est un métier où on peut échanger avec plein de gens super intéressants et puis où il y a une transmission du savoir, et ça c'est important parce qu'il y a beaucoup de métiers où on nous apprend uniquement que par l'école et où il y a peu de transmission, et là il y en a.
Je m'appelle Amandine, j'ai bientôt 27 ans et je viens d'Auvergne. J'ai choisi le Merle parce que c'est le centre de formation qui me permettait de voir la plus complète en fait des parties de la vie du mouton, parce qu'en fait on commence par l'agnelage à l'automne. Ensuite, on voit tous les soins de pathologie, tout ce qui est agro, tout ce qui est zootechnie. On fait un stage de garde au printemps. Et puis par la suite, en fait, on continue un peu à voir comment on battait un animal comme le cheval ou l'âne. On a aussi une formation sur la prédation. Là, en ce moment, on est à Champollion pour voir un peu comment se passe la montagne. On a des intervenants tels que des bergers qui sont sur des estives depuis un certain temps, qui savent nous expliquer comment pâturer des trucs comme le nard ou le kérel, des choses qui sont difficiles à faire manger. Et puis après, on est envoyé en stage d'estive pendant 4 mois. Et voilà, on a vu tout le cycle et on est prêt à travailler après pour ceux qui sont motivés.
Moi c'est Florian, j'ai 30 ans. Je viens de la région parisienne. Avant de faire la formation du Merle, j'étais électricien dans le bâtiment depuis à peu près 11 ans. Ça ne m'a jamais plu. Et j'ai voulu être apiculteur. C'est tombé à l'eau, vu ce qui se passe en ce moment. Et je me suis rabattu sur le métier de berger.
Alors pourquoi ce choix ?
C'est une longue histoire. Enfin, c'est à cause de mes chiens, enfin grâce à mes chiens. J'ai rencontré un berger dans les Vosges qui faisait des stages pour dresser les chiens. Vu que j'avais des bordeurs, je voulais les faire travailler. Et ça m'a plu de les voir bosser. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire ce métier-là, quoi.
Qui a beaucoup évolué, bah, c'est évidemment les méthodes d'élevage, les contraintes techniques qui ne sont plus les mêmes que celles qu'il y avait il y a 30 ans, le fait que les troupeaux sont de plus en plus grands au niveau du nombre de bêtes qui sont mis à disposition des bergers, et puis aussi le fait qu'il y a des nouveaux rôles du berger qui ont été identifiés, mis en avant, notamment tout ce qui est la gestion des espaces naturels, tout ce qui est la préservation dite de la biodiversité, etc. Et puis également une évolution très très importante au niveau de ce qu'on appelle le suivi sanitaire, notamment des troupeaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on va s'axer plus sur du geste technique, du geste professionnel. On va s'axer plus sur un terme qui est assez bizarre qu'on appelle le développement durable, mais développement à l'environnement, la gestion des espaces, et puis surtout tout ce qui va être produit respectueux de l'environnement, aussi bien pour l'animal que pour les sols, pour le milieu ambiant, etc.
Je pense que voilà, on répond à des attentes en plus que la société, des nouvelles attentes que la société impose aux gens, quoi. Donc j'ai l'impression, moi en tout cas, d'effectuer un travail beaucoup plus juste, en fait. Et ouais, c'est ma place, en fait. On arrive à se retrouver, en fait, que ça soit aussi bien dans les Alpes que dans les plaines de Basse-Provence, en fait, dans notre élément, en fait. On s'intègre dans quelque chose, contrairement à d'autres. À d'autres endroits comme la ville, par exemple. Où,
c'est un métier ancestral, c'est, je dirais, presque le plus vieux métier du monde, quoi. Donc, c'est comme une famille, un peu, tous ces bergers, quoi.
Au contact des animaux, mais même des éleveurs, hein, même de l'ensemble de la profession, en fait, j'ai l'impression vraiment d'être à ma place.
Les gens sont vachement fascinés par ce boulot-là, et puis après, quand ils savent qu'on travaille tous les jours, que le mouton il vit et il mange tous les jours et qu'il faut y être tout le temps. Mais c'est souvent de l'admiration parce qu'on entend souvent « moi je pourrais pas faire ça ». Alors on leur dit « ben ouais, faut être spécial ».
C'est parce que c'est un métier qui est dur. Faut aimer la nature, faut aimer le temps et faut aimer la solitude. Il y a tant de choses à voir.
Je m'aperçois que dans le métier de berger, Eh bien, en fait, nos convictions, en fait, sont en concordance avec nos faits. Donc, c'est ça que je trouve très, très important. Et quand je dis, en fait, j'ai dit plusieurs fois le métier de berger, mais en fait, c'est un mode de vie. On en revient toujours à ça, mais c'est un mode de vie. C'est pas, on ne fait pas berger comme on ferait banquier, quoi. Donc, quand je rentre à la cabane le soir, quand j'enlève mes affaires, mon manteau, je continue à être berger.
Si on voit en fait les contraintes du métier comme des freins, on le fait pas. Donc en fait à la base, je pense que on est des personnes assez rustiques qui savent s'adapter à un climat chaud, sec, froid, humide, voilà. Et les contraintes plus, moi ça serait peut-être à l'avenir pour créer, fonder une famille. Ça serait peut-être ça la contrainte, trouver quelqu'un qui soit motivé à me suivre moi dans mon métier parce que je lâcherais pas de sitôt et ouais, trouver quelqu'un qui s'adapte aussi à ce truc-là, ça serait plus ça la contrainte. Et puis emmener mes enfants à la montagne. Mais bon, c'est pas vraiment une contrainte parce que Geneviève, notre formatrice, l'a fait des années. Voilà, on connaît des bergères qui emmènent tout leur petit monde en montagne et tout se passe bien.
Il pleut bergère, rentre tes blancs moutons, allons sous ma chaumière, bergère vite, allons. J'entends sur le feuillage l'ombre qui tombe à grand bruit. Voici venir l'orage, voici venir l'Isler qui lui.
Le dénominateur commun, c'est quand même la recherche d'une qualité de vie que le métier de berger semble leur offrir, surtout le berger transhumant. Autant les contraintes que ce métier fait apparaître, donc, que ce soit l'isolement, que ce soit donc des contraintes liées au métier, par rapport aux horaires, par rapport aux hébergements, aux cabanes qui restent vétustes et tout ça, ces contraintes-là leur apparaissent comme une qualité de vie. Et ils sont en recherche donc de cette qualité-là.
Est-ce qu'il n'y a pas une idéalisation quand même du métier ?
Eh ben, cette idéalisation, on essaye de la percer lors des journées de recrutement que l'on a, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se présentent donc, pour la formation. On a une sélection, donc on opère une sélection avec un jury de professionnels. Et c'est vrai que si on a des gens un peu trop utopistes, ben on leur dit de développer une expérience, de voir déjà qu'est-ce que c'est que ce métier, et puis de venir faire la formation l'année d'après. Voilà, donc on arrive à déceler ça, on arrive à déceler des gens qui sont réellement motivés, qui ont réellement envie d'en faire leur métier, et puis les gens qui ont vu un reportage à la télé ou aux radios et qui se disent « Ah, pourquoi pas moi ?»
Ayant grandi en fait à la campagne, ayant des grands-parents paysans, et j'ai été élevé avec ces valeurs-là. Moi, tous les dimanches, mon grand-père me racontait des histoires sur 3 ou 4 générations. Quoi. J'avais 100 ans d'histoire familiale qui se rapprochait justement des gens qui s'occupaient de la terre, en fait, et de tout ce que ça peut aussi avoir. En fait, c'est une autre société. Hein, c'était, et moi, voilà, alors je suis nostalgique d'un temps que je n'ai pas connu. Alors, je pense qu'il y a aussi de ça, en fait, quand je me retrouve dans le métier de berger, en sachant que c'est, je singe pas les personnes qui étaient dans le métier il y a 100 ans. Quoi, hein. Je sais qu'il a évolué, je fais avec, et ça me plaît. Mais malgré tout, il y a comme un trait d'union, en fait. Dans mon engagement, en fait, j'ai l'impression de continuer ce que mes grands-parents, mes aïeux, en fait, ont déjà fait aussi. Ouais. Pour moi, je pense qu'il fallait en fait côtoyer des anciens, en fait, des personnes d'expérience, qui, eux, justement, peuvent transmettre leur savoir, c'est-à-dire, moi, me feront gagner quelques années, quoi. Parce que si je les écoute, je sais que je perdrai beaucoup moins mon temps quand je serai seul en montagne. Et moi, je pensais que c'était bénéfique d'être au contact de ces gens-là, parce qu'ils ont énormément de choses à nous transmettre.
Quoi. En Auvergne, chez moi, il y a des brebis que j'aime beaucoup. Et pourquoi pas faire perdurer ces races, parce que c'est des races qui se perdent un petit peu, la Noire du Velay, la Rava. Et ça serait dans cette optique, ouais, de faire perdurer la race. Après, c'est quand même un pas à franchir, l'installation. Moi qui ne suis pas d'un milieu agricole, je pense que voir beaucoup d'expérience avant de s'installer, c'est quand même mieux. Donc c'est un projet, mais on verra. À long terme, très long terme.
Puis c'est une profession qu'il faut qu'elle dure toute la vie.
Avoir un métier comme ça, ça, c'est de la politique au quotidien, en fait. Notre acte est politique sans mettre un bulletin dans une urne. C'est pas ce genre d'engagement qu'on arrivera peut-être à faire bouger les lignes, quoi.
Moi, j'ai une petite idée dans la tête, c'est d'avoir 200 brebis à peu près en laitier, et à la montagne surtout. Mais après, on ne sait pas de quoi demain il fait. Ça se trouve, je serai le berger toute ma vie pour un éleveur, je ne sais pas du tout. On verra comment ça va se passer.
Lors d'un de mes stages, en fait, j'ai été amené à travailler avec quelqu'un qui faisait du sylvopastoralisme. J'ai compris qu'il y avait une autre façon, en fait, de faire de l'élevage. Et, Et je pense que moi, voilà, c'est ça de pouvoir gérer mon troupeau. C'est ça qui m'intéresserait, en fait. Mais d'ici 5 à 10 ans, quoi, oui. Je me laisse vraiment le temps d'être berger, on va dire. Et puis après, oui, me lancer en tant qu'éleveur, oui.
On est tous du métier. Il y a une solidarité dans ce métier qui me fait halluciner, quand même.
Merci aux anciens de Rambouillet et aux jeunes du Merle qui ont bien voulu se livrer à l'exercice difficile du micro. Merci à Franck Dieny, éleveur, président de la Fédération régionale ovine du Sud-Est. Merci aussi à Émilie Bourgeois pour sa reprise moderne et rock'n'roll de la fameuse comptine « Il pleut bergère ». Un remerciement tout spécial à Hakan, les acolytes anonymes du berger Mathieu Roulet pour leur morceau de folk, Gilles Trénard pour les lectures de Pierre Mellet et du berger Ismaël Triolaire. Merci aussi à Monsieur Ankel, le vieux monsieur qui parle de Pierre Mellet, habitant d'Antonave, village dont Pierre Mellet fut le maire. Jean-Guy Bert, ancien berger, compagnon de la bergerie nationale de Rambouillet, qui parle du berger de Saorge. Cette émission estive est diffusée sur le site de la Maison du Berger, sur celui de la Fédération des Alpages de l'Isère, mais vous pouvez aussi retrouver cette émission sur les ondes de Radio Zinzine, Radio Grésivaudan et Radio Alpine Meilleure, nos partenaires de diffusion.